Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1982, avec Ciné-Roman, Philippe Esnault proposait un voyage en 10 épisodes dans le cinéma français, de ses premières années jusqu'à la Deuxième Guerre. C'était comment le cinéma, avant qu'il ne prenne la parole, était la question que posait L'écran fané, le premier volet de la série. On y entendait certains de ceux qui avaient découvert, aimé le cinéma, s'étaient passionnés pour lui au temps du muet. Le critique Jean Mitry y disait à quel point l'arrivée du parlant fut, dans un premier temps, ressentie comme une catastrophe. Dans L'homme ordinaire du cinéma, Jean-Louis Schaeffer écrit « Le cinéma, même muet, n'a jamais pu être un cinéma silencieux. C'est plus entièrement un cinéma pris dans le chuchotement. Et par ce silence chuchoté dans les premières images, un retour de cette poussière en nous, de cette lumière, de ces corps gris, comme si un enfant, assis en nous, tenait encore notre main. Et si c'était cela la catastrophe qu'évoquait Mitry ? Le sentiment qu'avec l'arrivée du parlant, un enfant lâchait la main du spectateur de cinéma. Ciné-Roman première, L'écran fané, une émission diffusée pour la première fois le 16 août 1982, avec des textes de Jean Epstein, de Henri Fescourt, de Jean-Paul Sartre, un extrait des mots, et aussi les mots et la voix de Raymond Queneau, celle de Musidora, Irma Vep de Feuillade, et en compagnie de Jean Mitry, du réalisateur Jean Dréville, du directeur de la photographie Henri Alcan, du chanteur Doda Conrad et du compositeur Jean Vienner.
Mesdames et messieurs, le cinématographe, l'invention du siècle. Une heure de fou rire, une heure d'oubli. Vous verrez à l'intérieur la boutique magique. L'homme qui court après sa tête. Retirons Marie sa fille. Entrez, mesdames et messieurs.
Place. Ciné, roman, par Philippe Esnault. Archives sonores du cinéma français.
Vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, bizarre. Alors je croyais que... Alors,
moi j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Comme... Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre?
Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre.
Moi j'ai dit bizarre. Lynx. Comme c'est bizarre. Lynx.
Marchons plus derrière.
Moteur.
Bougez plus parce que je vois des choses dans le miroir.
Porte 120 en première.
Ciné-roman première.
L'écran fané.
À l'ombre. Caméo. Cinéac. Éden. Gaumont. Cursal. Le spectacle était commencé. Nous suivions l'ouvreuse en trébuchant. Je me sentais clandestin. Au-dessus de nos têtes, un faisceau de lumière blanche traversait la salle. On y voyait danser des poussières, des fumées. Un piano hennissait, des poires violettes luisaient au mur. J'étais pris à la gorge par l'odeur vernie d'un désinfectant. L'odeur et les fruits de cette nuit habitée se confondaient en moi. Je mangeais les lampes de secours. Je m'emplissais de leur goût acidulé. Je raclais mon dos à des genoux. Je m'asseyais sur un siège grinçant. Ma mère glissait une couverture pliée sous mes fesses pour me hausser. Enfin, je regardais l'écran. Je découvrais une craie fluorescente, des paysages clignotants, rayés par des averses. Il pleuvait toujours, même au gros soleil, même dans les appartements. Parfois, un astéroïde en flammes traversait le salon d'une baronne sans qu'elle parût s'en étonner. J'aimais cette pluie, cette inquiétude sans repos qui travaillait la muraille. Le pianiste attaquait l'ouverture des grottes de Fingal et tout le monde comprenait que le criminel allait paraître. La baronne était folle de peur, mais son visage charbonneux cédait la place à une pancarte mauve, fin de la première partie. Jean-Paul Sartre, les mots.
Je l'ai depuis l'âge de 6 ans. Depuis l'âge de 6 ans, j'allais au cinéma avec ma bonne à 60. Mes parents, pour avoir la tranquillité, m'envoyaient le jeudi et puis le dimanche après-midi au cinéma. Et moi, Dieu sait si j'aimais ça.
Quand je
n'allais pas au cinéma, c'était un drame, c'était tragique. Il fallait absolument que
on vous privait de cinéma si vous n'étiez pas sage. Oui, voilà. C'était votre plus grande punition.
C'était la plus grande punition. Il n'y a qu'un film justement que je n'ai pas vu. C'est un film que mes parents sont allés voir parce qu'il était célèbre à l'époque, c'est le fameux Covadis.
Vous n'aviez pas le droit.
Ah, mais. Et puis d'abord, c'était une soirée de gala, d'ailleurs.
1912, le Covadis de 12, oui.
Covadis de 1912, c'était une soirée de gala. Mes parents ont dit oh non, au Covadis, il y a des lions, il y a des martyrs chrétiens, il y a des trucs, etc. Il aura peur, enfin, faut pas. C'est pas un film pour lui. Quoique les films qui étaient pour moi étaient souvent plus tragiques et plus effroyables que le Covadis, mais sans doute mes parents ne s'en rendaient pas compte.
Avez-vous des souvenirs concernant
le cinéma de cette
vos souvenirs d'enfant?
Oh là là, mon pauvre ami, mais c'est ces films, les premiers films qui m'ont frappé le plus. J'avais 8 ans et j'ai vu des films de Louis Feuillat, dont un qui s'appelait Guet-apens.
Ah oui.
Avec, j'ai su depuis que l'actrice principale c'était Yvette Andrieur, et puis il devait y avoir Maté ou des gens comme ça dedans. Enfin, c'était une histoire de château, de rendez-vous de chasse avec un crime, avec une femme enterrée vivante, enfin, etc. Il y a encore des images que je pourrais vous décrire, tellement ça m'a frappé à l'époque.
Comment on choisissait vos spectacles ?
Oh, ben c'est très simple. Il y avait, à ce moment-là, à Soissons, il y avait deux grands cinémas. Le cinéma de la Bourse, qui était place Gambetta, qui s'appelait le cinéma Gaumont, et puis un autre qui était sous contrôle de Pathé. Et alors, comme nous habitions près de la place Gambetta, c'est le plus souvent au cinéma Gaumont que nous allions. Mais chose curieuse, et c'est assez amusant de voir l'esprit d'un gosse, et comment les gosses comprenaient déjà, je ne parle pas pour moi seulement, mais ceux de ma génération comprenaient déjà le cinéma, instinctivement, intuitivement, et beaucoup mieux souvent que leurs parents, car il m'est arrivé d'expliquer des films à ma grand-mère, qui confondait tout, les flashbacks, les retours en arrière, elle était complètement paumée, alors que moi je comprenais ça directement. Mais elle, avec sa culture théâtrale, voyait théâtre, moi j'avais aucune culture théâtrale, donc j'avais l'esprit beaucoup plus libre, beaucoup plus vierge, et je pouvais d'emblée entrer dans le cinéma.
On dit encore aujourd'hui, n'est-ce pas, que le public à cette époque était essentiellement composé d'enfants, domestiques et de militaires.
Non, c'est faux. En général, oui, il y avait des militaires, les petits calicots de province, les bonnes d'enfants, les enfants, la preuve, moi et puis et puis Suzanne, d'accord. Mais il y avait déjà le public bourgeois commençait de fréquenter le cinéma d'une façon sinon régulière. Moi, les gens que je voyais au cinéma de la Bourse, c'était des gens comme mes parents, des gens comme ceux de ma famille, des gens que je connaissais, ou des petits camarades avec lesquels j'allais déjà au collège.
Non, vous n'aviez pas l'impression que les élites locales, je ne sais pas, le sous-préfet ou l'évêque boycottaient le cinéma?
Ah, du tout, ils n'y allaient pas. D'ailleurs, mon père, ma mère allaient au cinéma une fois de temps en temps. Ils sont allés
pour un événement.
Pour un événement, un grand film, un film dont on parle, une chose, ils sont allés voir Les Misérables,
de Capellani.
Ils sont allés voir Covadis, ils allaient au cinéma peut-être une fois tous les deux mois. Oui. Enfin, c'est tout, eux allaient au théâtre.
Ben voilà, il y avait un bonhomme au piano. On voyait quelquefois il était caché, mais d'habitude on le voyait. Et
Jean Viennet.
Avant que la lumière ne s'éteigne, Il jouait des choses comme ça. Pour mettre tout le monde de bonne humeur. Et puis, le film commençait. On voyait les actualités. On voyait un petit documentaire.
Et un film comique.
Et puis la grosse pièce de résistance.
Après l'entracte.
Après l'entracte.
Alors ça donnait quoi, par exemple, pour les actualités?
Pour les actualités, le type faisait n'importe quoi. Par exemple, quand il y avait une chose triste, alors il faisait ça. Et puis quand il y avait une chose gaie, alors il faisait...
Pour les documentaires, c'était assez difficile.
Alors, si c'était un très très bon musicien, alors il faisait des choses très compliquées. Etc. Puis quelquefois, il jouait admirablement du piano, et puis quelquefois, il en jouait moins bien. En général, les pianistes doués improvisaient, notamment Clément Doucet et Maurice Yvain. Oui. Qui ont joué pendant des mois et des mois en se relayant au cinéma Pigalle.
Une dizaine de films. Ça durait une heure et demie, le spectacle, à peu près, autant qu'ils m'en souviennent. Et il y avait des petits comiques, les actualités, ce qu'on appelait un film de première partie, qui devait être un film d'une bobine, c'est-à-dire d'un quart d'heure. Et puis après ça, il y avait l'entracte, avec orchestre, naturellement, ouverture avec orchestre. Et puis après ça, il y avait le grand film, qui était un film généralement de deux bobines, donc qui durait de 25 à 30 minutes. Et puis après ça, il y avait encore un film comique. C'est là que j'ai vu les Onésimes, tous les films de Jean Durand, Max Linder, Onésime, Zigoto, Boudzan,
Bébé, séries comiques françaises.
Je ne dis pas que j'ai vu tous les films de ces séries, mais j'en ai vu une quantité.
Vous nous parliez d'orchestre. En réalité, ce n'était que dans les grands cinémas, les grandes occasions. Il y avait plutôt un accompagnement avec un piano, piano et violon.
Oui, mais je n'ai pas connu ça à Soissons, parce que tout de même, les cinémas où j'allais, c'était des salles de première catégorie.
De première
vision. Il y avait le chef d'orchestre avec ses musiciens. Il devait être une dizaine de musiciens. Le Gaumont Palace de Soissons, si vous voulez, c'était dans la Bourse du Travail, qui était place Gambetta, qui était quand même un local. Il y avait quand même, je ne sais pas moi, 700-800 places.
Confortable,
comme étaient confortables les cinémas confortables de l'époque. C'était des chaises canées ou des chaises rembourrées, mais il n'y avait pas de fauteuil.
Un ouvreur, un avorton rouquin, les conduisit à leur place. « Ça alors, dit Polo, des orchestres, des fauteuils, du velours. Ce que vous êtes gentil, monsieur Bernard, dit Annette. » Le hameau, ému, essuya discrètement une larme. Puis, conséquemment, fit asseoir la petite fille à sa droite et le petit garçon à sa gauche. Derrière eux siégeaient deux rombières. Un peu plus loin, il y avait un réformé. De ci, de là, on pouvait repérer des familles avec ou sans leur chef, selon l'âge probable de celui-ci. Le reste des spectateurs était britannique. Une masse bruyante et en casquette grouillait au poulailler. De temps à autre, un mégot ou un bonbon à moitié sucé tombait sur les rupins du parquet. L'orchestre, alors indiqué sur le programme, se mit à jouer l'hymne national serbe, ce qui ne parut en aucune façon émouvoir la population accumulée en ce lieu de plaisir. « Quelle barbe, dit Polo, quand c'est-ils qui vont commencer ?»« Patience, dit le hameau, patience !» À ce moment, la nuit tomba, la projection ronfla, l'orchestre clabauda, Pâté Journal s'annonça, le poulailler siffla. « Oh, la barbe !» dit Polo. « Oh, la barbe !» dit Annette. « C'est très intéressant, Pâté Journal !» dit l'une des vieilles dames derrière. « Cela pourrait instruire le peuple, mais le peuple refuse de s'instruire. » Le hameau était tout à fait de cet avis, mais ne broncha pas. Quant aux enfants, ils n'entendirent pas la remarque désobligeante, car eux aussi s'étaient mis à siffler. Les actualités offraient en effet une cérémonie officielle à l'université d'Oxford. Le poulailler, prenant les professeurs en toge pour des curés, manifestait énergiquement ses convictions anticléricales, sans d'ailleurs choquer le militaire anglais pour qui les sifflets n'avaient point cette valeur réprobative. Bref, tout le monde était content, sauf quelques bourgeois français qui comprenaient eux grâce à leur instruction. Ensuite, on vit les cuistots aux armées et la bonne vie des tranchées, et puis deux ou trois choses de ce format. Pâté Journal terminé, les lampes se rallumèrent, et le poulailler fit un « ah » de soulagement. « C'est pas trop tôt, Polo. »
Raymond Queneau.
À l'époque, on était abonnés au cinéma. Et il y avait des billets de famille, puis des abonnements qui n'existent plus. Ce qui fait que ça poussait vraiment les familles à retourner chaque semaine. Alors, chaque semaine, on allait au cinéma. Les films de l'époque qui m'ont marqué, d'abord les films comiques, il y avait, je crois qu'il y avait le Double Pâte et Patachon. Il y avait Laurel et Hardy. Et il y avait, alors, dans les films qui m'ont marqué, surtout... à cause de la personnalité de la vedette, c'était Louise Brooks. Donc c'était un peu plus tard, ça, oui. Que je trouvais absolument formidable, prodigieuse. Et mon frère et moi, je crois, on était véritablement amoureux de Louise Brooks.
Henri
Alcan. On ne manquait pas un seul de ses films. Il y avait aussi Florence Vidor, je crois, qui était avant Louise Brooks. Alors donc c'était nos deux vedettes féminines préférées. Le cinéma, alors, pour nous, représentait une distraction absolument prodigieuse, d'autant plus que dans cette période, j'irais presque tragique, où nous avons été à Nice entre 18 et 22-23, on a fini par échouer dans un hôtel, qui était rue Pastorelli à Nice, et l'hôtel était au-dessus d'un cinéma. Alors, connaissant le directeur, on avait une carte de faveur, une carte de famille, et chaque semaine... nous allions voir une séance de cinéma.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passait ?
C'était assez bruyant, parce que les gens, le public, souvent participaient à l'action et ne se gênaient pas. Surtout que la rue Pastorelli n'était pas une rue réputée snob. C'était plutôt déjà dans les quartiers un peu populaires de Nice. Les fauteuils étaient très inconfortables, si je me souviens bien, faisaient un bruit épouvantable au moment où tout le monde se levait. Il y avait le ressort qui déclenchait le strapontin ou le dessus du fauteuil. Et c'était une des choses qui m'a marqué dans ma vie. Parce que comme on habitait au-dessus du cinéma, on savait vers 11h30 minuit, je crois que ça, c'était à peu près l'heure où ça se terminait, par un terrifiant bruit de strapontin qui claquait, que la séance était finie et enfin on allait pouvoir dormir.
Et maintenant, vous allez voir les nouvelles aventures de Nick Winter. Ils virent en effet en trois parties les nouvelles aventures de Nick Winter. L'arrestation d'une bande de vauriens fut universellement acclamée. Après, la direction glissait un entracte. « Vous voulez sortir ?» demanda le hameau. « On est bien là, » dit Polo. « Pour une fois qu'on a des orchestres, faut en profiter. » Une épicière se promenait dans la salle avec un panier sur le ventre. Le hameau régala la jeunesse. Alors, ça vous a plu? C'était chouette, dit Polo. Ah, Nique Vinter, comment qu'il les a eus, les autres? Et toi, Annette, ça t'a plu? Oh oui, j'aimerais ça, une détective. Comment? Ou espionne? Eh bien, tu as de drôles d'idées. Ça ne vous plairait pas que je fasse ça, monsieur Bernard? C'est pas drôle de travailler, disait Annette. Quand on est espionne, on boit du champagne, on tire des coups de revolver, c'est la vraie vie, ça.
Ah, les attractions étaient, si je me souviens bien, c'était surtout alors à Paris, au Marcadet Cinéma Palace, hein, où les attractions nous semblaient de grande qualité. Enfin, on était jeunes, on n'était pas très difficile. Alors, soit c'était un comique, genre chansonnier, quelquefois, qui tenait la scène pendant une bonne demi-heure. Hein. Soit c'était des acrobates.
Des illusionnistes?
Comme on pouvait les voir aussi. Des jongleurs ou des illusionnistes. Généralement, c'était pas très copieux.
Des chanteurs?
Peu. À l'époque, il y avait, je crois me rappeler, assez peu de chanteurs. Quelquefois, cependant. Et on aimait beaucoup ce côté dit attraction.
Oui. Et la première partie se composait comment? Alors, deuxième partie, à cette époque-là, vous aviez un long métrage.
Il y avait un long métrage et il y avait un film à épisode. Et je crois que c'était le film à épisode avec les actualités qui faisait la première partie. Alors, le système du film à épisode, je crois, était un très très bon système pour avoir une clientèle fixe. Bah, c'était l'époque de Judex, je crois que j'ai vu Judex à cette époque au Marcadet Cinéma Palace. Donc on ne voulait pas manquer
la suite.
La suite.
Gaumont, Cursal, Luxe, Lynx, Magique, Palace, Pathé, Pax, Rex, Rialto, Roxy, Trianon, Triomphe.
Je vous ai dit que j'allais 9 fois sur 10 au Gaumont Palace et une fois sur 10 au Pathé, au cinéma Pathé.
Vous faisiez une différence?
Je détestais les films Pathé. Je détestais les films parlants, parce qu'il y avait des films parlants. Presque à chaque séance, oui, il y avait un film parlant. Un film parlant qui durait, oh mon Dieu, 3 minutes, 4 minutes.
Attendez. Des films parlants, à quelle époque?
Oh, en 1911, 1912.
Quel procédé? C'était simplement le synchronisme Imachon.
Ah non, c'était le synchronisme Gaumont, c'était le Gaumont, le chronophone Gaumont. C'était le synchronisme.
Les chronoscènes.
Les chronoscènes, c'était le synchronisme du disque et puis du film. Et alors c'était nasillard, c'était mauvais.
C'était des chansons, c'était des
textes. Des chansons, des petites scénettes, des petits textes, oui, souvent idiots. Détestais ça. Je détestais les films en couleur, parce que c'était des films coloriés qui bavaient, où la couleur bavait partout autour des images. Et je n'aimais pas les films Pathé, et j'aimais les films Gaumont. J'aimais les films
Sans
Gaumont.
Sans savoir pourquoi, vraiment.
J'aurais pas, à l'époque, été capable de dire pourquoi, oui, mais depuis, je m'en suis rendu compte, tout simplement parce que les films Gaumont étaient beaucoup plus vrais. Non pas vrai, peut-être de la vraisemblance de l'histoire, que j'aurais pas été capable de juger, j'en sais rien, mais vrai par la matière enregistrée. Simplement parce que le père Gaumont, justement, était avare, et il était avare de décors, et il faisait tourner presque tous ses films en extérieur. Donc c'était de vrais extérieurs, c'était dans la réalité vraie, même si l'histoire était invraisemblable, elle donnait un sentiment de vérité, alors que chez Pathé, il y avait beaucoup plus d'acteurs de théâtre, d'ailleurs, que chez Gaumont, parce que Pathé était plus riche et payait plus cher, et des acteurs de théâtre qui jouaient théâtre, alors que ceux de chez Gaumont avaient un comportement déjà beaucoup plus vrai, beaucoup plus simple, beaucoup plus dégagé, justement, de l'emprise théâtrale. Et chez Pathé, c'était du beau décor de luxe, mais du décor de carton.
Vos préférences allaient vers les féeries, les comiques, ou vous aimiez avoir
drames,
peur?
Les drames,
j'aimais
avoir peur. J'étais passionné de Judex et de ces films-là, à l'époque. J'ai vu, malheureusement, qu'un Fantomas, parce que Fantomas est sorti au moment de la guerre, à ce moment-là, on avait...
Les vampires.
J'ai vu un ou deux épisodes des vampires, mais pas plus. Mais j'ai vu tous les mystères de New York, ça, j'ai vu les mystères de New York, j'ai vu quantité de films à épisodes que j'ai vus, bien sûr. Mais ce qui est très curieux aussi, dans la mentalité du spectateur, comme les films à épisodes racontaient une histoire romanesque. Et même si l'histoire romanesque était abracadabrante et purement superficielle, ça avait quand même une continuité romanesque. Alors que les autres films, comme presque tous les grands films du muet, étaient construits sous l'angle de la théâtralité, c'est-à-dire l'œuvre refermée sur elle-même dans un espace-temps relativement restreint. Mais les gens ne s'y trompaient pas à l'époque. Les films, les grands films, on appelait ça une pièce. On allait voir une pièce filmée. Ouais. Non, même pas une pièce filmée, une pièce cinématographique, ouais. Une pièce de cinéma. Et les films en épisode, on allait voir un roman, un ciné-roman. Donc la différence du romanesque et du théâtral était déjà même dans la dénomination.
La tête coupée, la bague qui tue, le cryptogramme rouge, le spectre, l'évasion du mort, les yeux qui fascinent Satanas, le maître de la foudre, l'homme des poisons, les noces sanglantes. Le travail qu'on me demandait était fort simple. J'étais la vampe, première vampe du monde sous le titre d'Irma Vep, anagramme de vampire. Je n'avais qu'à me laisser tomber d'un toit du 8e étage sur le trottoir une corde à la taille, passer sous un véritable train pourvu de 45 wagons pour le moins, tomber dans une trappe de 2 mètres de haut, bien certainement sur un matelas, recevoir un coup de pistolet chargé à blanc, mais qui blessait néanmoins, sauter d'une auto en marche et me faire écraser sur l'asphalte par une énorme Peugeot, bras et jambes ficelés et sans défense. Tout cela dirigé par la voix encourageante de Feuillade, teintée d'un léger accent du midi pour me faire croire que c'était une blague, sans doute une galéjade. On risquait sa vie tous les jours, mais on s'amusait.
Musidora.
À votre connaissance, alors, à quel moment sont apparus les génériques?
J'ai jamais vu de film autrement qu'avec générique. C'est assez amusant parce que les génériques à cette époque-là n'étaient pas du tout faits comme les génériques qu'on a fait après. Par exemple, pour vous parler des génériques de Guet-apens, les acteurs venaient saluer. Comme il y avait un rideau qui s'ouvrait, et les acteurs venaient saluer avec un sous-titre, Madame Yvette Andrayor, dans le rôle de... Madame Yvette Andrayor venait et elle saluait. Monsieur Jean Toulou, dans le rôle de... Monsieur Jean Toulou venait et venait saluer. C'était encore très théâtral.
Le pianiste, surtout quand il était dans un petit cinéma, il était tout seul, il jouait en somme pendant très longtemps, enfin deux grandes heures, quelquefois deux heures et demie. Le pianiste qui improvisait, il commençait généralement par un... comme ça. Puis il se disait, qu'est-ce que je vais faire là? Alors il commençait... comme ça.
Est-ce qu'il avait vu le film avant? Pas toujours.
Non, la première fois, il ne l'avait pas vu, mais comme il jouait pendant 15 jours devant le même film...
Il suivait la projection. Il regardait l'écran.
Ça dépend. Quelquefois, il lisait un livre. C'est arrivé très souvent. Où il recevait des amis. Alors, quelquefois, ça tombait très bien. Quelquefois, ça tombait pas du tout bien. Mais enfin... Le pianiste consciencieux, il regardait en tout cas les premiers jours, il regardait un petit peu l'image malgré tout. Alors, celui qui avait des idées un peu préconçues, quand il y avait un suspense, quand il y avait un point d'interrogation, il faisait des choses comme ça. Vous comprenez ? Voilà des choses très... très grand opéra.
Et alors les scènes d'amour, c'était au contraire très langoureux.
Ah oui, alors les scènes d'amour, c'était toujours ça. Et puis alors, il y avait quelque chose d'un peu ennuyeux, c'est quand ce n'était pas des très grands pianistes, qui arrivaient bien souvent, ils oubliaient par exemple d'enlever le pied de la pédale, alors ça faisait... faisait un peu de la bouillie. C'était une époque où on jouait beaucoup de polka.
Je crois que j'ai découvert le cinéma quand on m'y amenait pour la première fois.
À quel âge ?
J'avais, je crois...
Doda Conrad.
7 ou 8 ans. Et je me souviens que c'était pour voir un film du capitaine Scott faisant la découverte du pôle Sud ou du pôle Nord.
Oui.
Et voilà. Et j'y étais amené, étrangement, je me souviens maintenant, par Suzette Lemaire. Suzette Lemaire était la fille de Madeleine Lemaire, qui était la grande amie de Proust. Et je me souviens que Suzette Lemaire, n'est-ce pas, j'étais mon frère et moi, nous étions des petits garçons, les enfants d'une cantatrice illustre. Et alors, des jeunes femmes, n'est-ce pas, rendaient service à ma mère pour sortir et emmener chez Rumpelmayer pour prendre des gâteaux. Et au cinéma, les deux petits garçons.
Quel était le public du cinéma ?
Ce film-là, je me souviens, j'ai une mémoire d'éléphant, c'était donné au Théâtre de Paris, rue Blanche. Et c'était des représentations spéciales où il fallait prendre ses places d'avance. Et je me souviens que nous étions dans une loge, on avait pris des places de loge, et c'était une vraie représentation. Je ne crois pas que c'était le genre cinéma de boulevard, enfin les cinémas où on allait. Et je crois que là, ma mère n'aurait peut-être pas voulu que les enfants aillent. Alors on avait choisi ce film-là qui était tout à fait instructif et intéressant.
Oui. Et quand vous avez été un peu plus âgé, vous y êtes allé, vous dites, vers 16-17 ans, mais sans en parler aux parents.
Oh non, non, non. On allait au cinéma tous les vendredis, par exemple, au changement de programme, au cinéma Mozart, puisque nous habitions pas loin de là. C'était le cinéma de quartier et le quartier ensemble. Je me souviens, toutes sortes de personnes qu'on rencontrait au cinéma Mozart le vendredi, c'est-à-dire Chagall et sa femme, qui habitaient dans la Villa Montmorency, un pianiste qu'appelait Henri-Gilles Marchex, les Maurice Delage, les amis de Ravel, toutes sortes, tout un milieu de quartier allait n'importe quel film qui s'y donnait au changement de programme, n'est-ce pas? Et le cinéma à ce moment-là était d'ailleurs très intéressant. Il y avait un vrai orchestre symphonique, n'est-ce pas, qui jouait un concert dans l'entracte, une symphonie, et qui accompagnait le film. Alors il y avait un répertoire de musique symphonique pour le film, et le film était donc automatiquement, au moment de la poursuite finale, il y avait toujours l'ouverture de Guillaume Tell. N'est-ce pas? C'était toujours comme ça. Et en général, l'ouverture de Guillaume Tell vous faisait sortir du cinéma avec un sentiment d'exhilaration, n'est-ce pas? On était enchanté, on avait entendu cette musique, n'est-ce pas? La chevauchée, c'était, voilà la fin du cinéma de cette époque.
Commençait d'avoir des revues faites pour le public. Et il commençait d'avoir une revue qui s'appelait Ciné pour tous, qui était faite par Pierre Henry, qui était d'ailleurs une revue très bien faite, de vulgarisation, mais de vulgarisation très intelligente, qui expliquait ce que c'était qu'un film, le comment, le pourquoi. J'ai commencé à me plonger là-dedans, et puis à voir des critiques. Et puis je voyais qu'ils critiquaient un film que j'avais beaucoup aimé. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'ils démolissent ce film alors que c'est très beau? Mais enfin, je comprends pas. Je suis allé revoir le film à partir de ses critiques, en essayant de découvrir pourquoi il l'avait critiqué. Et c'est comme ça que je me suis fait façonner peu à peu l'esprit, une première conscience cinématographique, savoir comment c'était fait, et puis après ça, ce que c'était un plan, la séquence, la construction du film, le découpage, le scénario, tout cela, ça, je l'ai appris par bribes, peu à peu, à la faveur de ces revues, puis Cinéa et puis Ciné Magazine qui sont venus par la suite. Je n'ai pas cessé de lire toutes ces revues. Et Cinéa, lorsque j'avais 16 ans, c'est-à-dire en 1920, fin 1920, début 21, a instauré un concours d'affiches. Un concours d'affiches sur les films de Louis Deluc. La femme de nulle part, ça devait être en 21, puisque la femme de nulle part est de 21, c'était en 21. La femme de nulle part, Donjon et Faust, et puis je ne me rappelle plus, oui, de l'Herbier, puis je ne me rappelle plus un autre film, je crois un film de Léon Poirier, je ne me rappelle plus.
Et alors vous avez gagné?
Non, j'ai eu le troisième prix seulement, ce qui était déjà tout de même pas mal pour un gosse de 16 ans, devant des semi-professionnels comme Bécan et comme d'autres qui ont eu les premiers prix, naturellement. Et c'est là que j'ai connu Deluc, etc. Ah, j'étais très flatté. Et il me dit, mais vous venez chercher la maquette de votre père? Je dis, non, c'est moi qui l'ai fait. Il dit, comment c'est vous qui avez fait ça? Alors, commencez à bavarder un peu, à s'intéresser à moi. Il dit, mais... Alors, là, je lui ai dit, mais je voudrais faire du cinéma, ça m'intéresse, le cinéma me passionne, je voudrais connaître des gens. Alors, il m'a dit, c'est lui qui m'a envoyé chez Canudo.
Au Club des Amis du 7e art.
Je fais partie du Club des Amis du 7e art. Alors, j'ai fait partie du Club des Amis du 7e
art. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit portrait de Luc et de Canudo?
C'est-à-dire que Deluc, là, je l'ai vu pendant une heure. Et encore, je ne l'aurais pas vu pendant une heure si je n'avais pas été en culotte courte et si je n'avais pas eu 16 ans. Mais c'était un homme qui, très sympathique, un peu nonchalant, un peu, comment dirais-je, mais une nonchalance aimable, vous savez, cette nonchalance...
Il était du Sud-Ouest.
Oui, une nonchalance, il avait une attitude un peu aristocratique, pour moi, enfin.
On disait un peu distant. Était-il distant?
Distant, oui et non. Il était, au contraire, très affable, mais une distance qui était une distance de comportement et pas une distance de jugement. Oui, moi, ça m'a beaucoup... je dis pas que ça m'a beaucoup impressionné, mais enfin, ça m'a... disons que j'ai eu beaucoup de sympathie, et en même temps que de l'admiration pour un homme qui avait déjà un nom, une notoriété, une valeur. Cette espèce d'attitude m'avait, je dis pas fasciné, mais m'avait attiré.
Quelquefois, lorsqu'on évoque Louis Deluc et... son petit clan, enfin les gens qui étaient autour de lui, les premiers cinéphiles, l'avant-garde française, disons, on emploie la formule snob.
Pas du tout, moi. Deluc m'a pas du tout paru snob. L'attitude snob, si tant est qu'on peut le dire, j'aurais peut-être trouvé un peu chez Marcel L'Herbier. Mais L'Herbier, avec son nom, m'a toujours inspiré l'idée d'un herbier et d'une fleur desséchée.
Ah, moi aussi, c'est ça.
C'est très curieux. Desséchée.
Absolument.
C'est très curieux, cette espèce d'association du nom et du comportement. Mais l'herbier, pour moi, c'est exactement une magnifique fleur desséchée. Avec tout ce côté...
Émise dans un vieux livre.
Tout ce côté...
Mais si vous voulez, précieuse.
Oui, tout ce côté intellectuel, recherché, précieux, un peu savant... Mais je ne qualifierais pas ça de snob, c'était une affectation.
Il y a tout de même derrière un phénomène culturel, le vernis, disons, mondain et le vernis des modes, il y a tout de même aussi affaire de tempérament. Il y a une grande opposition secrète, mais que nous connaissons, que nous pouvons révéler aujourd'hui, entre L'Herbier et Gans, personnages qui tous les deux étaient à l'origine des écrivains manqués, n'est-ce pas, qui ont abandonné la littérature pour le cinéma. Personnage qui se voulait aussi d'avant-garde, puisque le cinéma était un art d'avant-garde, il fallait aller à l'extrême avant-garde. Et il y a une inversion complète des personnages, c'est-à-dire que Gans est un personnage autodidacte d'une culture absolument confuse, où tout se mélange, alors que L'Herbier est un homme très fin, qui a une culture
absolument
très programmée, très assimilée. Et inversement, il y a une force explosive chez Gans.
Chez Gans, qu'il n'y a pas chez L'Herbier.
Qu'il ne peut pas contrôler, alors que L'Herbier manque de force. Il aurait voulu aller vers la grâce par manque de force.
Oui, certainement. Si vous voulez, pour moi, ce sont trois personnages extrêmement intéressants que j'ai connus, non pas profondément, mais enfin que j'ai fréquentés, que j'ai beaucoup aimés, et enfin auxquels je dois énormément, puisque les films qui m'ont apporté, qui m'ont appris quelque chose, c'est les films de Gans, c'est J'accuse, c'est Eldorado, L'Aube du large, de L'Herbier, La femme de nulle part, même Le fièvre de Deluc, Le silence aussi, ça a été pour moi des révélations. Mais, disons, si vous voulez, parole de grandeur, celui qui a défoncé les portes, ou qui m'a fait défoncer les portes, c'est Gans avec La Roue. La Roue, ça a été la rupture de tout, là, ça a été l'enthousiasme déferlant. J'ai compris le rythme cinématographique, le montage, la structure, tout ça, c'était une découverte phénoménale. Mais déjà, je fréquentais le grenier de Canudo, et c'est d'ailleurs grâce à Canudo que j'ai assisté à la présentation de La Roue.
Ah, parlez-nous de Canudo. C'était des soirées tous les lundis.
Tous les lundis. C'était des soirées de conversation autour du cinéma.
Pas sous forme de conférence.
Ah non, conversation à bâton rompu sur les théories du cinéma, mais d'une façon très superficielle. C'était beaucoup plus une espèce de réunion d'artistes et de gens de cinéma qui parlaient de leur métier entre eux, beaucoup plus avec un sérieux très relatif. C'était beaucoup plus mondain qu'autre chose, quoi.
l'hiver 1922 ou 23, j'ai connu un bonhomme, un monsieur qui s'appelait Ricciotto Canudo et qui a été l'inventeur du cinématographe en tant qu'art, un art. Il a publié d'ailleurs une revue qui a eu peu d'exemplaires qui s'appelait La Gazette des Sept Arts.
Il a créé le terme.
Eh bien, ce titre-là même était agressif parce que Ricciotto Canudo en parlait d'ailleurs avec une volubilité d'annunciesque. C'était un Italien, n'est-ce pas, très 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 soigné comme dans son apparence, n'est-ce pas, le monsieur italien qui fait très attention au nœud de sa cravate et à la coupe de son veston.
Est-ce que sa personnalité fascinait ou était simplement pittoresque?
À ce moment, la personnalité de Canudo était un peu terne en ce sens qu'il faisait un peu pionnier du pauvre, et le pauvre étant le cinéma, n'est-ce pas? C'était un pionnier d'une chose mineure, et alors il fallait qu'il intéresse les gens d'abord dans cette chose qu'il appelle le cinéma, et qu'au fond, dans le monde intellectuel, on fréquentait fort peu.
Qui cherchait-il à intéresser au cinéma? Est-ce que ce n'était pas les milieux culturels et mondains?
Les milieux culturels et mondains, mais mieux que culturels, n'est-ce pas? Cela se passait, je me souviens, ça se passait dans le salon de Madame Paul Clémenceau, avenue des Lots, où l'on rencontrait, évidemment, monsieur Einstein, ou la comtesse de Noailles, ou Paul Painlevé, ou tout un personnel international austro-franco-italien de grands hommes. On y rencontrait Pirandello, enfin, on y rencontrait toutes sortes de d'intellectuels. Et là, il y avait Canudo, dans ce milieu-là.
Qu'est-ce qu'on pensait du cinéma à ce moment-là, dans ce milieu-là?
Très peu, très peu. La plupart des gens n'allaient pas au cinéma, et il y avait des personnalités, des grandes actrices comme Pina Menichelli, comme Francesca Bertini, n'est-ce pas, des femmes d'une grande beauté. Alors c'était tout à fait le début de Charlie Chaplin, par exemple. Eh bien, Charlie Chaplin était alors profondément méprisé comme une distraction vulgaire pour gens très, très arriérés. Mais d'ailleurs, il faut dire, n'est-ce pas, je vais peu au cinéma au fond, parce qu'en général, j'ai l'impression que le cinéma n'est pas fait pour moi. Il est fait pour 50 millions de spectateurs, pour la masse. De même, d'ailleurs, la télévision et la radio. Une certaine qualité ne peut pas être faite pour la masse, n'est-ce pas? Quand j'étais enfant, il y avait un terme polonais, mais qui pouvait se traduire en français par le mot « roman d'escalier de service », n'est-ce pas? C'était, oui, roman de femme de chambre, n'est-ce pas? Eh bien, au fond, un certain cinéma que nous voyons, le côté littéraire du cinéma, c'est un côté roman de femme de chambre.
Quels étaient les arguments de Canudo pour le cinéma?
Les arguments de Canudo, c'était l'enthousiasme total et c'était noyé dans des superlatifs.
On le méprisait ou on acceptait de discuter?
Je crois qu'on l'écoutait avec un certain respect parce qu'il avait beaucoup d'autorité, avec un certain scepticisme, je pense, parce qu'on ne savait pas très bien de quoi il parlait. Voilà.
Donc, Canudo restera l'homme qui a lancé la formule « Le cinéma, c'est le septième art ». Quand vous entendiez cette formule, vous aviez tendance peut-être à sourire.
Sourire, oui. Naturellement. Tout le monde souriait. Souriait.
Le premier film qui vous a donné l'idée que le cinéma était un art, qui vous a donné à réfléchir?
Surtout les films de la série Pax de chez Gaumont, de Poirier, de L'Herbier, L'Homme du Large, Eldorado, Narayanath Poirier, tout
ça. C'est ça, c'est l'avant-garde française d'après la guerre.
C'est ça, oui, oui, oui.
Mais est-ce que tout de même, vos regards ne se portaient pas d'abord sur le cinéma américain?
Oui, bien sûr, mais le cinéma américain, enfin je me trompe probablement, mais j'avais l'impression qu'il s'essoufflait, qu'il ne sortait pas du film de mouvement, ce qui évidemment a son grand intérêt. Et pour moi, les grands moments du cinéma américain de cette époque-là, c'était Le Lys brisé, c'était Forfaiture, c'était les films de Griffith, les Douglas Fairbanks, bien sûr. Je ne sais pas si c'est pas cette sorte d'éducation européenne, on n'y trouvait pas sa nourriture complète.
Alors c'était l'époque de vos petits carnets.
Ah, les petits carnets. Oui, bah, c'est-à-dire que à cette époque-là, je notais tous les films que je voyais, je notais les génériques, les acteurs, et je faisais ça dans le noir, comme ça je copiais les génériques à toute vitesse, puis rentrais chez moi, je les calligraphiais, avec des petits dessins qui accompagnaient le truc. Et c'est devenu maintenant, évidemment, un petit répertoire assez amusant, parce que c'est un témoignage sur cette époque.
Jean Dréville.
J'ai commencé à faire de la critique, à écrire à partir de 1924, où j'ai commencé là à prendre une conscience du fait filmique et des conditions d'existence du cinéma en tant que moyen d'expression, du rythme, du montage, de toutes ces choses-là, qu'on commençait de découvrir en France à la suite du cinéma américain, à la suite de La Roue d'Abel Gant. Justement, c'est pourquoi, pour moi, La Roue, c'était une tellement grande date. C'est oui. Ce qui m'a fait découvrir le montage, le rythme, les structures
les rapports,
fonctionnelles
oui.
du cinéma. Et après ça, est venu Epstein avec ses premiers bouquins, ses théories qui m'ont complètement éclairé. Et je vous dis, Epstein peut-être est dépassé maintenant en tant que théoricien, mais à l'époque, il a apporté, avant Eisenstein. C'était bien le premier sûr. Grand théoricien du cinéma, encore très littéraire, je veux bien. Mais si vous voulez, il fait le pont entre la critique encore purement littéraire d'un Canudo ou même d'un Deluc. Même d'un Deluc. Et puis la critique qui commence à être une critique analytique scientifique qui commence avec Eisenstein. Avec Epstein, on commence de se rendre compte de l'importance du gros plan, de l'importance du montage, de l'importance des relations d'image, de l'importance des structures fondamentales. D'une façon encore intuitive, mais qui est déjà un dégagement, qui est déjà une manière de défricher la chose.
J'appellerais photogénique tout aspect des choses, des êtres et des âmes qui accroît sa qualité morale par la reproduction cinématographique. Et tout aspect qui n'est pas majoré par la reproduction cinématographique n'est pas photogénique, ne fait pas partie de l'art cinématographique. Jean Epstein.
Il y avait quand même une ferveur dans la découverte d'un art qui naissait, la confection de son écriture, de son vocabulaire. C'est extraordinaire, je me souviens de séances où on passait des films d'avant-garde et on sortait de cette séance en discutant. Et puis un jour, je suis repassé devant cette même salle, c'était les Ursulines, je crois, ou le Vieux Colombier, je ne me souviens plus très bien. À 3h du matin, les gens discutaient encore. Pour discuter de comment il fallait comprendre un fondu enchaîné ou un sous-titre qui manquait. Enfin, c'était une rigolade. Mais il y avait une fièvre, une foi.
C'est la cinéphilie.
Ah oui.
Est-ce que vous vous souvenez de grands moments que vous avez vécu dans ces salles comme les Ursulines, Studio 28
Je ne sais pas, des films comme Solitude de Feijoo qui a tenu un an. Aux Ursulines. Les Epstein venait présenter au Vieux Colombier des fragments de l'affiche, des fragments de 6,5-11, des fragments de. Il venait présenter comme ça des fragments en cours de montage pour présenter ça à un public.
Et on en discutait.
Et on en discutait. C'était assez passionnant.
Vous alliez à la tribune du cinéma de
Charles Léger. La tribune du cinéma, l'expression des arts décoratifs de 25, évidemment, était un. C'est là où on a fait à peu près, je crois, les premières fois des discussions publiques. C'était très intéressant. Alors là, Germaine Dulac nous présentait La coquille clergymane, nous présentait La folie des vaillants. Là ont été projetées les premières fois L'entracte de René Clair. Et alors dans les salles, il y avait quand même des films qui se sont fait très mal accueillir d'ailleurs par le public. Des films, c'était un peu plus tard ça, Cœur fidèle, mais enfin des films comme Cœur fidèle, je pense à ça, et L'inhumaine ont été hués par le public.
Vous pensez que les historiens du cinéma aujourd'hui rendent bien compte de l'atmosphère de cette époque et rendent justice aux œuvres principales?
Voilà, j'aime beaucoup votre question parce que ça correspond à une de mes colères rentrées. C'est-à-dire que je trouve que la plupart des historiens du cinéma ne veulent pas donner aux films du passé la valeur qu'ils ont eue par rapport à l'époque à laquelle ils sont sortis. Il est facile de se moquer aujourd'hui d'un film qui est ridicule et qui est devenu ridicule, c'est un fait.
Mais le ridicule, si c'est les rides.
Voilà, exactement. N'est-ce pas? Mais c'est très joli de voir une dame de 100 ans et de dire « ça a été la plus belle fille du monde ». Ben oui, ben c'est comme ça le cinéma. Or, quand un film incontestablement est sur des gens pas plus idiots que ceux que les gens d'aujourd'hui, on montait au pavois un film, il est complètement stupide de le dénigrer aujourd'hui. Il faut dire ce film a eu une importance, nous supposons pour telle et telle raison, à son époque. Et ça, il y a vraiment très peu d'histoires du cinéma qui nous racontent ça comme ça.
On ne se rend plus compte, même pour des œuvres aussi considérables que La Roue de Gans, l'émotion, l'événement que ça a été.
La Roue est un moment qu'on n'a jamais retrouvé, ni avant, ni après. La présentation de La Roue à l'Hippodrome a été un événement considérable. Le film a été présenté en 3 semaines, c'est-à-dire en 3 jeudis de suite, puisque je crois que chaque séance devait faire environ 3-4 heures. Et la dernière séance de La Roue, la dernière partie, le public était tellement enthousiaste qu'il ne voulait pas quitter la salle. On claquait les banquettes de l'Hippodrome, il n'y avait rien à faire.
On applaudissait.
Alors, je vais vous raconter une petite chose amusante. Ça a duré peut-être 5 minutes, c'est beaucoup. Et il y a un monsieur qui est arrivé au milieu de l'Hippodrome avec un immense mégaphone, parce qu'à cette époque-là, les haut-parleurs électriques n'existaient pas. Il a obtenu le silence et il a dit « Écoutez, mesdames, messieurs, nous allons faire ce que nous n'avons jamais fait. Nous allons vous bisser la dernière bobine du film. » Laissez-nous le temps de la rembobiner. Alors, 5 minutes se sont passées et on a reprojeté la dernière bobine de La Roue dans un enthousiasme indescriptible. Par exemple, on parle, à propos de Gans, on parle plus facilement du Napoléon que de La Roue. Pour moi, Napoléon n'est qu'une sorte de perfectionnement technique de La Roue, mais tout ce qui est dans Napoléon existait déjà dans La Roue.
Oui, tout de même le triple écran.
Écoutez, il se trouve que j'étais dans la cabine de l'opéra le jour où on a passé la première, où on a passé le triple écran. Et le père Gans et Marguerite Bauger étaient dans la cabine. C'était deux loges qu'on avait réunies à l'opéra. Et pendant qu'on passait le truc, une demi-heure plus tard devait passer le triple écran. Ils étaient en train de le monter sur la synchroniseuse à trois trucs. J'aime mieux vous dire que c'était du sport. Ça a été du sport.
Et c'est bien passé.
Et c'est passé.
C'était synchrone.
Il y a toujours des miracles, oui.
C'était synchrone. Oui. Tout de même, ça a été un choc, tout de même, devant cet immense écran, dans la salle de l'opéra.
C'était un gros choc.
Ce triple écran.
Ah, oui. Et le plan final de Napoléon, c'était un petit aigle, le petit aigle qui a servi dans le film, qui était filmé en triple écran.
On l'a retrouvé, n'est-ce pas, au studio 28, bien longtemps plus tard, en 1955. Oui. C'est-à-dire qu'il est sur l'écran central, et quand il éploie ses ailes, c'est sur les écrans latéraux.
Sur les trois écrans,
c'est
oui.
Ça, n'est-ce pas, c'était
l'image finale. Je veux dire que sur l'écran de l'opéra, ça faisait un effet extraordinaire. Extraordinaire.
Se voyait condamné à mort. Ses partisans assistaient, atterrés et impuissants, à sa brève agonie. Tant de travaux, de succès, d'espérances, se trouveraient-ils désormais engloutis? Nous n'en voulions rien croire. Je ne pense pas qu'on trouve dans toute l'histoire des arts un instant d'un pathétique comparable. Nous mîmes plusieurs mois à nous rendre réalité. Un jour, j'entendis quelqu'un qui revenait d'Angleterre, l'Angleterre nous avait largement devancés sur les nouvelles voies, confié, effondré. Les cinémas londoniens ont disposé à la place occupée par l'ancien orchestre de vastes corbeilles de fleurs, comme sur les dalles funéraires. Henri Fescourt.
Et pour beaucoup d'autres, le cinéma parlant, ça a été une catastrophe. Au début,
bien sûr.
Quand l'apparition du cinéma parlant, c'était vraiment, on a dit non, c'est foutu, c'est fini, il n'y a plus de cinéma. C'était vraiment
Un
déchirement épouvantable. Et puis on s'est aperçu peu à peu, très rapidement d'ailleurs, en l'espace d'un an ou deux, que pas du tout, c'était autre chose, que ça permettait toute une autre construction, toute une autre conception, toute une autre mode d'expression, et que le cinéma ne perdait rien de ce qui lui était fondamental.
Entendez, mesdames et messieurs, le cinématographe, l'invention du siècle. Une heure de courir, une heure d'oubli. Vous verrez à l'intérieur la boutique magique, l'homme qui court après sa tête. Retirons Marie sa fille. Entrez, mesdames et messieurs.
Ciné-roman, première. L'écran fané, par Philippe Esnault. Avec Henri Alcan, Deda Conrad, Jean Dréville, Jean Mitry, Jean Vienner. Texte, Jean-Paul Sartre, Jean Epstein, Henri Fescourt, dit par Michel Cohen. Et les voix de Musidora, Raymond Queneau. Collaboration technique, Michel Créis. Assistante de réalisation, Janine Antoine.
Cette émission a été diffusée la première fois le 16 août 1982 sur France Culture. À suivre. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
Só dança o samba, vai, 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 vai. Só dança o samba, só dança o samba, só dança o samba, vai. Só dança o samba, só dança o samba, vai, 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 vai. Só dança o samba, só dança o samba, só dança o samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei. Me cansei do calypso, tcha tcha tcha. Só danço samba, só danço samba. Vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba, só danço samba, vai. Só dança o samba, vai, 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 vai. Só dança samba, só dança samba, só dança samba, vai. Só dança o samba, só dança o samba, vai, 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 vai. Só dança samba, só dança samba, só dança samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei. Me cansei do calypso, tcha tcha tcha. Só danço samba, só danço samba. Vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba.